Il faut comprendre que la psychanalyse, d'une façon générale, a affaire à deux grandes zones dans le psychisme et qui sont deux zones différentes, qui correspondent à deux niveaux différents. Vous le savez, on en a déjà parlé, il y a le niveau du narcissisme, tout ce qui se passe dans les premières bases d'établissement des fondations du psychisme, et puis il y a le niveau de l'Œdipe, qui est plus la zone des pulsions, des conflits, de la rivalité, etc. Les niveaux sont différents. Il y a un niveau qui est marqué plus spécialement par le paradoxe. Le niveau du narcissisme et des premières bases est marqué par le paradoxe. Parce que le paradoxe dans lequel quelque chose est en même temps son contraire, et même souvent quelque chose n'existe que parce qu'il est son contraire, donc une façon de voir qui n'est pas logique, le paradoxe, c'est la phase de transition indispensable du psychisme de l'enfant pour commencer à accepter la réalité externe et la découvrir. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore les moyens logiques de faire une différence claire entre le dedans et le dehors, et donc il faut qu'il passe par une zone paradoxale avant d'arriver à établir une réalité externe. En l'absence de langage, la pensée de l'enfant est assez démunie pour essayer de comprendre ce qui se passe, que ce soit la réalité extérieure ou la réalité intérieure. Donc, du coup, étant assez démuni, il va y avoir une pensée qui sera à base d'images, de paradoxes, de sensations, toutes choses qui ne seront pas vraiment conformes à la pensée logique secondaire. Alors que le niveau plus élaboré de l'Œdipe est sous le signe du conflit, c'est-à-dire le conflit entre les différentes pulsions, le conflit avec la réalité, etc. Mais dans un domaine plus logique, on n'est pas dans quelque chose et son contraire, on est dans ou bien ou bien. De ce fait, la difficulté spécifique de la psychanalyse classique, pas de la psychanalyse à IRE, la difficulté spécifique de la psychanalyse, c'est qu'elle est un support essentiellement langagier, et donc du coup elle ne sait pas trop bien comment traiter le niveau archaïque. Puisque le niveau archaïque, la zone du paradoxe, est spécifiée par l'absence de langage et par la pensée non structurée à base de ressentis et d'images. Donc, comment est-ce qu'on va parler de quelque chose qui est non structuré, qui est non logique et qui n'a pas trouvé de place dans le langage avec quelque chose qui est de l'ordre du langage?
Donc, on va réfléchir sur cette difficulté spécifique. Comment on peut traiter l'archaïque qui est avant le langage? Puisque, normalement, dans une psychanalyse classique, on traite tout ça par le langage. Alors, on va faire un petit détour par les vécus archaïques, les vécus primaires. Leurs caractéristiques, et c'est simple à comprendre si on se met dans la peau d'un bébé qui est débordé par des pulsions intérieures, par une réalité extérieure incompréhensible, etc. Eh bien, les caractéristiques des vécus primaires, je vous en ai fait la liste, je me contente de la lire. C'est des vécus de non-sens, hein, on n'arrive pas à mettre du sens facilement sur ce qui se passe. Des vécus d'affect qui sont très violents, très submergents, qui peuvent être terrifiants. Une angoisse de morcellement, avec le sentiment que son propre être peut partir en morceaux et qu'il y a une discontinuité de l'être. Des désirs qui sont des désirs sauvages, quoi. Il y a quelque chose qui envahit, puisque ça n'est pas canalisé, contrôlé. Il n'y a pas de moi suffisamment solide pour canaliser la puissance du ça. Donc il y a des désirs sauvages et une pulsionnalité animale, quoi, sans frein. Et puis, un amour et une haine extrêmement intenses. L'ambiguïté des repères. Puisque le dedans et le dehors ne sont pas clairement repérés. Une bascule entre impuissance absolue et toute puissance absolue. Et l'animisme de la pensée, c'est-à-dire que tout a une âme, quoi. Alors donc, surtout, ce qu'on retient dans toutes ces caractéristiques, c'est le mythe de la grandiosité magique, phallique, absolue, qui est quelque chose qui nous a tous tenus, et la paradoxalité. Ce qu'on voit, c'est que finalement, ces caractéristiques des vécus primaires, ben finalement, c'est ce qu'on retrouve quand on est adulte et qu'on a peur de devenir fou. Si on a peur de devenir fou, on a peur de basculer dans le non-sens, on a peur de basculer dans l'angoisse de morcellement, d'être submergé par des choses absolument impossibles à contrôler, etc. C'est ça la peur de devenir fou. Donc la peur de devenir fou, comme la peur de mourir, d'une certaine manière, c'est la peur de retrouver des vécus archaïques primaires dont on a su, quand on les a traversés, qu'ils étaient incontrôlables. Puisqu'à l'époque, finalement, c'était seulement le psychisme de la mère qui pouvait les récolter et les rendre détoxiqués à l'enfant. Mais à l'intérieur de nous, on a tous eu cette expérience-là. Et donc, il existe une partie de nous, il existe une zone de nous qui s'est structurée en s'appuyant sur le psychisme maternel, mais dont on a les traces et dont on sait aussi comment ça peut par moment nous prendre. Donc il y a la peur quelque part d'éclater en morceaux, d'être possédé par des désirs absolument animaux, violents, par des affects d'une intensité énorme, etc. Et c'est tout le travail de mise en pensée qui va réussir à contenir ça et à lui donner une forme. Alors, la difficulté spécifique de ces vécus primaires archaïques, qui sont la pensée du bébé, hein, c'est que justement, c'est à l'époque du non-langage, autrement dit, c'est des vécus qui sont de l'impensable, de l'impensé. Ça n'a pas été pensé, ça n'était pas pensable. La seule pensée qui pouvait exister à l'époque, c'était une pensée primaire, c'est-à-dire sous la forme d'images et de sensations, mais non pas d'une compréhension de ce qui se passait. Et en plus, on était dans le paradoxe, c'est-à-dire que quelque chose pouvait être quelque chose et son contraire ou parce que son contraire. Or, le paradoxe est une phase inévitable et maturative, mais aussi une phase qui peut être destructrice. Il y a des paradoxes destructeurs, on en a déjà parlé, le double message, le double bind, mais il y a des paradoxes fondamentaux de notre psychisme qui ont tous existé et qui ont été nécessaires pour qu'on réussisse à passer à l'étape suivante. Je vous en cite trois principaux, mais il y en a d'autres. Trouver, créer. C'est le saint, je l'ai trouvé, mais en même temps, je l'ai créé. Et c'est indécidable de savoir si je l'ai trouvé ou si je l'ai créé, puisqu'il correspond à l'hallucination interne que j'en avais, et pour peu que la mère ait favorisé cet état de toute puissance magique et qu'elle soit arrivée au moment opportun pour l'enfant, ben, elle lui permet de vivre cette expérience paradoxale dans laquelle il trouve et en même temps il y crée. Vous vous rappelez que Winnicott, en ce qui concerne l'objet transitionnel, dit que c'est quelque chose qui est à la fois du dedans et du dehors. L'écharpe que l'enfant a pris à la mère et qu'il garde tout le temps pour lui comme étant le doudou qu'il veut surtout pas perdre et qu'il ne faut pas laver, qu'il ne faut pas lui enlever, etc. C'est à la fois la mère et c'est à la fois lui. Donc c'est indécidable de savoir qu'est-ce qui est à la fois de la mère et de lui. Eh bien c'est cet espace paradoxal, cet espace transitionnel, est indispensable pour que progressivement l'enfant supporte la découverte du dehors, du différencié. Trouver, créer. Et ça va être la source de toute une créativité après, ultérieurement, on en reparlera. Deuxième paradoxe maturatif, seul, en présence de la mère. C'est-à-dire que je peux être vraiment seul parce que je suis en présence de la mère, ce qui est paradoxal, puisque en somme. Mais en fait, il faut justement que je sois en présence de la mère, qu'elle soit là comme une espèce de fond soutenant, pour que je m'autorise à me sentir seul. Et le troisième paradoxe, c'est détruit, retrouvé. C'est-à-dire, rappelez-vous dans le cœur métamorphe où j'en parle, je fantasme que je détruis l'autre, et non seulement je le fantasme, mais je suis vraiment possédé par le désir de destruction, je fais tout pour le détruire, et puis l'autre est intact, je le retrouve intact, et donc je peux faire la différence entre le fait que je l'ai détruit et le fait qu'il n'est pas détruit. Et donc je peux commencer à faire la différence entre mes fantasmes et la réalité. Donc tous ces paradoxes sont le signe même de la première, du premier type de lien avec soi-même et avec la réalité extérieure. Mais donc du coup, ça va nous confronter en tant que thérapeute au fait de supporter des moments, en particulier quand on est dans des régressions archaïques, avec des zones où on ne comprend plus rien, où c'est pas logique, où c'est quelque chose et son contraire en même temps, où il y a un mélange de tout. Un mélange aussi bien à l'intérieur du patient qui va mélanger telle et telle chose que entre les deux identités du thérapeute et du patient. Ou à la limite, on se demande, mais alors attends, ça c'est lui qui l'amène ou c'est moi qui l'amène? Il y a quelque chose de flou, de délicat à gérer et qui est souvent associé avec des affects violents, qui est caractéristique de la période de zone plus archaïque qu'on est en train d'aborder. Et qui suppose de la part du thérapeute une sécurité dans ces zones complètement non logiques et dans ces zones floues où on n'y comprend plus rien. Donc on y reviendra tout à l'heure sur l'importance du positionnement du thérapeute dans ces moments-là. Alors donc, une première idée qui nous vient, c'est de comparer tout ça avec le rêve éveillé. Or, le rêve éveillé, c'est par essence quelque chose qui est un vécu paradoxal. Pourquoi ? Parce qu'il a exactement les mêmes paradoxes que ce qui a constitué le psychisme de l'enfant. Le rêve éveillé, il est à la fois trouvé et créé. Ça, vous avez tous eu cette expérience, qui est ces images qui vous viennent, vous les trouvez, et en même temps, vous les créez. Et c'est indécidable de dire est-ce que je l'ai créé ou est-ce que je l'ai trouvé. Je l'ai créé, mais je l'ai trouvé en même temps. Et c'est justement ça qui est bien, c'est que je vis quelque chose qui est du trouver-créer, quoi. De même, le rêve éveillé permet d'expérimenter seul en présence de l'autre. Parce qu'en réalité, je suis seul dans mon rêve éveillé, mais je ne peux le faire que parce que je suis en présence. Si vous avez essayé de faire du rêve éveillé tout seul chez vous, ben vous savez que c'est quasiment pas possible. Ou alors, il faut vous représenter que vous êtes en train de parler à votre thérapeute et que la personne est là, vraiment. Mais tout seul, c'est très difficile de faire du rêve éveillé. C'est pas véritablement du rêve éveillé. Il n'a pas tout à fait la même tonalité. Donc, en fait, il y a un paradoxe, c'est que le rêve éveillé, il ne peut être fait d'une façon valable que seul en présence. Et on retrouve aussi le troisième paradoxe, qui est détruit, retrouvé. C'est-à-dire que dans le rêve éveillé, je vais pouvoir détruire avec violence une figuration symbolique du thérapeute, transférentiellement déposée sur telle ou telle image. Et en fait, hors rêve éveillé, je vais retrouver le thérapeute tel qu'en lui-même. Et donc, du coup, je vais avoir pu laisser libre champ à toutes mes forces de destruction, et pourtant, elles n'auront rien détruit. D'où l'importance d'ailleurs, on y reviendra plus tard, de mettre le rêve éveillé soigneusement à l'intérieur de guillemets, c'est-à-dire qu'on sache bien que c'est du rêve éveillé, que c'est différent du restant de la séance. Et il y a même d'autres paradoxes qui sont caractéristiques du rêve éveillé. Par exemple, le fait que ça soit à la fois le plus intime de soi-même, qui est en train de s'exprimer dans le rêve éveillé, et qu'il est quand même tissé avec l'autre qui est présent. Exemple, vous avez tous expérimenté que les réveillés que vous faites à la cascanide ne sont pas les mêmes que ceux que vous faites en thérapie individuelle. Pourtant, c'est bien vous qui les faites dans tous les cas. Donc ça veut dire que quelque chose qui est de votre plus intime est en même temps mélangé, créé aussi avec l'aide du contexte dans lequel ça se développe. C'est-à-dire que ce n'est pas indépendant du contexte qu'avec un certain type de thérapeute, on fait un certain type de rêve éveillé, et avec un autre type de thérapeute, on fait un autre type de rêve éveillé. Et qu'à la cascanide, vous ne faites pas les mêmes réveillés que ce que vous faites avec votre thérapeute. Ce qui, a priori, est incompréhensible pour la pensée logique. Puisque si le rêve éveillé est porteur de ce qu'on a à dire au point de vue de l'inconscient, il devrait pouvoir le dire. Enfin, un autre paradoxe du rêve éveillé, et je pense qu'on en trouverait encore d'autres, c'est réel, imaginaire. C'est à la fois de l'imaginaire, mais à la fois ça a un impact de vécu vraiment réel. Il y a quelque chose de complètement, c'est comme presque une expérience nouvelle qu'on a faite, qui a la puissance d'une expérience du réel. Et c'est indécidable de dire est-ce que c'est du réel ou est-ce que c'est de l'imaginaire, parce que c'est les deux en même temps. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve éveillé, par son essence même, est extrêmement lié à la pensée paradoxale de la zone du paradoxe, qui est la zone du narcissisme. Ça veut dire que quand on fait du rêve éveillé, d'une certaine manière, on retrouve une pensée archaïque à base d'images, à base d'affects assez violents, et à base de paradoxes. Donc on est présent dans une approche qui est très intéressante en ce sens qu'elle favorise l'accès à l'archaïque. Et peut-être que du coup, on va déboucher, on va y réfléchir tout à l'heure, sur un paradoxe supplémentaire qui est que le plus spécifique du patient est en même temps différent suivant le contexte et le thérapeute, et donc est complètement mélangé aux deux psychismes. Il y a aussi une proximité, alors pour terminer sur les spécificités du rêve éveillé, il y a aussi une proximité entre l'hallucination et le rêve éveillé. Finalement, on vivrait ce qu'on est en train de vivre en rêve éveillé comme étant une réalité quand on est en train de marcher dans la rue, ben on serait psychotique, c'est-à-dire qu'on serait dans un délire hallucinatoire. Il y a un délire hallucinatoire qui s'appelle l'onirisme délirant, l'amincia de Ménerte, qui est finalement pratiquement la même chose que du rêve éveillé. C'est une histoire que le patient vit avec intensité, dans laquelle il est pris, etc. Donc d'une certaine manière, il y a des similitudes entre l'hallucination et le rêve éveillé. Sauf que justement, nous, c'est un peu comme si on se permettait d'avoir cet accès à la pensée hallucinatoire à l'intérieur d'un cadre qui fait qu'on peut jouer avec cette zone-là sans qu'elle franchisse la barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en même temps, ça laisse entendre que finalement, la capacité d'hallucination, elle existe chez tout le monde.
Est-ce qui permet de dire que la pensée du bébé est hallucinante?
Alors, on ne peut pas le dire d'une façon catégorique, mais toutes les études semblent montrer que l'enfant hallucine le sein qui n'est pas présent, et donc du coup il commence à manifester corporellement qu'il est déjà avec ce sein imaginaire, et puis le sein arrive et d'une certaine manière l'hallucination devient la réalité. Donc en fait on voit bien par exemple pour les enfants que tout petit, hein, que la frontière entre le dehors et le dedans n'étant pas très clairement établie, ils peuvent beaucoup plus facilement être pris par leur monde intérieur comme étant la réalité du monde extérieur. Et donc, du coup, comme tu peux avoir par exemple certains enfants qui ont des peurs, des cauchemars terribles, où pendant un certain temps, ils sont dans l'hallucination, ils voient le bandit ou le danger qui est là et ils croient vraiment que c'est là. Donc il y a une frontière qui n'est pas très nette. Plus tard, il y a une frontière beaucoup plus nette à l'intérieur de nous qui fait que l'épreuve de réalité fait qu'on peut dire ça c'est de l'hallucination et ça c'est du réel. Et c'est même ce qui fait la différence entre psychose et névrose, quoi. Alors, au fond, si on imagine qu'il y a un côté hallucinatoire dans le réveillé, ben, on peut se dire qu'au fond, on peut explorer une certaine zone de pensée archaïque, psychotique, en sécurité, quelque part. Encore plus, on le verra tout à l'heure, quand il s'agit de rêves éveillés vraiment marqués par l'archaïque, qui ont un espèce de style complètement différent des autres rêves éveillés, où les choses sont bizarres, floues, mal situées, où on est dans des affects intenses sans vraiment savoir à quoi on a affaire. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que autant les psychanalystes s'interrogent sur comment traiter l'archaïque qui est hors langage, autant en ce qui nous concerne, on a un accès particulièrement intéressant à l'archaïque du fait du rêve éveillé. Mais ça a des dangers et des impératifs pour la thérapie. Le danger, c'est de surestimer ses vécus primaires et de passer à côté de conflits plus élaborés. C'est-à-dire, on est tellement fasciné par le primaire, par l'imago maternel de base, par le repérage du dedans et du dehors, par la mise en sens d'affects débordants, etc., qu'on va finalement ne pas assez voir des enjeux d'hypiens, de rivalité, de sexe, de pulsion, etc. Vous verrez assez souvent dans la littérature psychanalytique quelque chose qui est tout à fait pertinent, qui est que souvent un aspect plutôt prégénital et la plupart, qui est présenté à l'analyste par le patient est très souvent un mécanisme de défense pour éviter qu'on vienne travailler sur la zone génitale du conflit oedipien, et qu'inversement un aspect plutôt oedipien comme ça en apparence, par exemple, étant hystérique, etc., peut très souvent recouvrir quelque chose de beaucoup moins structuré à un niveau plus archaïque. Donc il y a un risque de se laisser prendre juste à un seul des deux niveaux. C'est une des critiques qui a été faite à Winnicott, à mon avis à tort, mais malgré tout, c'est une des critiques qui a été faite à Winnicott, comme quoi il s'occupait que de la mère, qu'il n'y avait plus l'histoire du père, de la triangulation, de la loi, du sexe, de l'Oedipe, et qu'il s'occupait que de la mère, du contenant psychique, de la détoxication des vécus archaïques, etc.
Moi, j'avais peut-être une idée fausse, c'est trop tôt, je pense, finalement, que moi, j'imaginais que c'était un peu hiérarchisé, quoi, qu'il fallait d'abord réparer justement les niveaux maternels, et qu'après, on s'attaquait au conflit de tout, là. Et donc, en fait, c'est peut-être pas ça, le débat est bien.
Oui, voilà, c'est pas... La cure, elle prend rarement un aspect logique, quoi. En travaillant d'abord sur l'archaïque, ensuite sur le deep. La plupart du temps, c'est même plutôt l'inverse. On commence par travailler sur des conflits plus élaborés, et puis progressivement, on aperçoit qu'il y a une zone de base qui est mal structurée, qui a besoin d'être travaillée. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a des périodes sur une zone et des périodes sur l'autre. C'est pas forcément... et il peut y avoir des allers-retours entre les différents niveaux. Ceci dit, en ce qui nous concerne, et je pense que c'est valable aussi pour la psychanalyse classique, en ce qui nous concerne, on n'a pas à choisir s'il vaut mieux travailler sur telle zone ou telle autre. On a à déblayer les mécanismes de défense et à se mettre au service du rêve éveillé là où il veut aller. Or, le rêve éveillé, il va aller là où il doit aller. Pour certains, ça va être d'emblée des trucs très primaires, narcissiques, des rêves éveillés archaïques. Pour d'autres, non. Et nous, on n'a pas à choisir, quoi. On a à se mettre au service du mouvement en partant de l'idée que le rêve éveillé nous emmène là où ça doit nous emmener. Hein? Donc alors, un premier danger au point du positionnement du thérapeute, c'est de surestimer les vécus archaïques, par exemple. Et un autre danger similaire et complémentaire, c'est de sous-estimer les vécus primaires. Baline t'en parle en disant les psychanalystes interprètent en termes de conflit oedipien quelque chose qui est beaucoup plus archaïque et qui ne doit pas être interprété dans ces termes-là, sous peine de couper l'accès à ces niveaux-là. Donc sous-estimer les vécus primaires et passer à côté des points de base de la personnalité, est un risque si on a une théorisation trop élaborée autour du conflit oedipien, par exemple. Hein? Parce que quand on arrive dans les zones de la pensée paradoxée infralangagière, là, nos repères théoriques classiques seraient plus un handicap qu'un atout. Parce qu'il faut supporter d'accompagner le patient dans l'incertitude, dans le flou de la pensée primaire, dans le vécu du non-sens, etc., sans se précipiter à essayer de trancher à la hache là-dedans pour que ça soit bien clair, avec du noir, du blanc, avec des choses comme ça. Balint et Winnicott en parlent très bien en disant que dans ces zones-là, l'urgence, c'est pas d'interpréter, c'est d'être contenant et d'accompagner, quoi. Hein? Donc, deux dangers possibles, soit surestimer les vécus primaires, soit sous-estimer les vécus primaires. Et un autre impératif, c'est la nécessité de survivre. Survivre, vous savez que c'est un moment très important dans le psychisme, dans le développement du psychisme de l'enfant, c'est-à-dire que quand il commence à être destructeur, eh bien, il est important qu'en face, le parent survive. Survivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'appliquer ni rétorsion, ni retrait, ni désorganisation. Alors rétorsion, ça veut dire, puisque c'est comme ça, coup pour coup, ah bon, tu vas m'agresser, ben moi, je vais t'agresser en retour. Ce qui est une tentation contre-transférentielle. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous en met plein le nez pendant toute une séance pour vous dire à quel point vous êtes mauvais et nul. Une tentation contre-transférentielle, ça pourrait être de lui envoyer une bonne interprétation bien salée sur ce qu'il a besoin de comprendre. Ça, c'est de la rétorsion. C'est pas survivre. Une autre façon de ne pas survivre, c'est de se retirer. Je dis plus rien. Ah bon, bah si c'est ça, fais donc ta cure tout seul. Moi, je te dirai plus un mot jusqu'à ce que tu comprennes. Donc là, c'est aussi un acting contre-transférentiel possible. Et une troisième façon de ne pas survivre, c'est de se désorganiser. Oh là là, mais il m'a dit ça, mais je suis complètement perdu, je suis vraiment très très bouleversé, etc., etc. Pour le patient, c'est important qu'il ressente, il vient de vous agresser, de vous dire des tas de trucs, etc. Et vous continuez imperturbablement à être dans la même position, avec la même bienveillance inconditionnelle, ce qui ne veut pas dire une bienveillance gnagnan, mais qui vous restez là, stable, et vous n'êtes pas détruit. Et à ce moment-là, ça permet l'établissement d'une frontière de plus en plus nette entre les fantasmes et la réalité. Un autre danger dans ces zones-là, donc puisqu'on est dans ces zones, hein, la nécessité de survivre, c'est dans le détruit retrouvé. Un autre danger dans ces zones-là, ces zones paradoxales, ces zones floues et archaïques, c'est de vouloir dénouer le paradoxe. De vouloir trancher impérativement, de vouloir dire est-ce que c'est à vous ou est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est du dehors ou est-ce que c'est du dedans? Et certains analystes parlent de deux risques possibles, le risque de mystification et le risque de disqualification. Mystification, c'est de dire c'est moi qui sais ce que tu penses. C'est-à-dire, au fond, créer une sorte de faux self à partir de nos interprétations qu'on amène trop vite pour se rassurer face à cette zone traversée de choses de vide, de non-sens et d'incompréhensible. Et d'une certaine manière, l'interprétation amenée trop vite, c'est de dire c'est moi qui sais ce que tu penses. Et donc, c'est une mystification possible parce que du coup, ça peut créer un faux self. Ça, c'est un des risques qu'on a souvent reproché à la psychanalyse classique, de faire une sorte d'armature d'interprétation intellectuelle qui finalement empêche ce mouvement créatif de cette zone archaïque. Le risque de mystification. Et l'autre risque, c'est le risque de disqualification. Tu ne sais pas ce que tu dis. Qui rejoint ce que je vous ai souvent dit à propos de la désignation. Ah oh bah oui, mais de toute façon, il est complètement fou, donc c'est même pas la peine de faire attention. Ça, c'est son délire. C'est son délire paranoïaque. Donc du coup, il y a quelque chose là qui dénie qu'on est dans une zone de folie mutuelle et qu'il va falloir la traverser ensemble. Winnicott souligne qu'il ne faut pas dénouer le paradoxe. Qu'un paradoxe, il doit rester, et finalement, il doit s'épuiser de lui-même, et on passe à une autre étape. Alors, l'intérêt du rêve éveillé, pour nous, c'est que ça nous évite tous ces risques, quoi. On n'est pas obligé de trouver comment dénouer le paradoxe, de trouver l'interprétation intelligente, etc. Et on n'est pas obligé non plus de chercher à savoir comment on va sortir de ce magma incompréhensible, puisque le rêve éveillé va mettre une représentation de l'impensable impensé. Il a une capacité de représentation archaïque, du fait même de sa structure paradoxale, qui fait que c'est pas à l'analyste d'essayer de mettre en sens intérieurement, après avoir accepté d'aller dans la folie mutuelle de cette zone, c'est pas à l'analyste de le faire. Contrairement à ce qu'on voit dans la plupart des écrits psychanalytiques, c'est pour ça aussi que quand vous lisez des écrits psychanalytiques, pensez aussi à vous dire « Oui, c'est comme ça qu'on fait en psychanalyse classique, mais c'est pas comme ça qu'on fait forcément en psychanalyse ailleurs. Hein ?» Donc du coup, nous, on n'a pas besoin de se fatiguer comme ça à essayer de mettre tout en sens, puisqu'on a un outil qui va mettre, non pas en sens, mais en représentation, l'impensable impensé.
C'est plus facile.
C'est bien plus facile. Et en plus, le rêve éveillé et la structure de la cure à IRE a deux étapes. Le rêve éveillé, donc l'hallucination, entre guillemets, et les liens postérieurs qu'on fait. Donc, d'une certaine manière, on fait une sorte de mise en pensée. Non seulement d'abord une première représentation de l'impensable, mais ensuite une formalisation de cet impensable impensé qui a commencé à être mis en forme par des mots. On va faire des mots derrière. Voilà, exactement. Alors, pour le processus de symbolisation, on recoupe ce qui est le développement naturel du psychisme de l'enfant. Le psychisme de l'enfant, il commence par l'acte. Il n'y a même pas de psychisme, c'est de l'acte. C'est-à-dire, le bébé, ça va décharger. Décharger à travers le corps, à travers toutes les manifestations corporelles, tous les symptômes, etc. C'est de l'acte. Et l'acte décharge au fur et à mesure. Mais c'est vraiment une étape infra-symbolisée, quoi. C'est vraiment de l'acte pour l'acte. Ensuite, cet acte, il commence à s'intégrer dans un jeu. Les jeux, c'est les jeux dans la cour, les jeux, c'est de l'acte, mais qui est cadré à l'intérieur d'une symbolisation, d'un début de symbolisation, puisqu'on va le mettre dans des jeux. On sait bien que les jeux d'enfants sont en somme en train de dire des choses très, très importantes de son propre psychisme, mais sous une forme qui est quand même cadrée, quoi. C'est déjà différent de l'acte, le jeu. Le jeu, c'est de l'acte qui commence à se symboliser. Ensuite, l'étape après, c'est du jeu intérieur, c'est-à-dire c'est le fantasme. Non pas le fantasme au sens kleinien du terme, bon objet, mauvais objet, mais le fantasme tel qu'on se le représente d'habitude, c'est-à-dire ces espèces de scénarios intérieurs. Le fantasme, c'est la même chose, sauf que là, il n'y a même plus besoin d'acte. L'acte, il est à l'intérieur. C'est-à-dire, on a été de l'acte pur qui était dans le corps, à l'acte qui ensuite a été intégré à l'intérieur d'un cadre symbolisant qui est le jeu, d'où l'importance pour l'enfant de jouer. Et on passe à l'étape suivante, où finalement, c'est dans le fantasme que ça arrive. À l'adolescence, on est beaucoup plus dans le fantasme que dans le jeu. Et l'étape suivante, c'est la mise en sens et la mise en pensée verbalisée de ce que veut dire le fantasme. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience du fait que le fantasme, qui est un acte symbolisé à l'intérieur, est en fait porteur de telle et telle pulsion, de tel et tel interdit, de telle et telle signification, etc. Et à partir du moment où on met en pensée d'une façon verbalisée, digitale, quel était le message analogique de toutes ces images, eh bien, d'une certaine manière, on a une mise en pensée définitive de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, je peux comprendre que mon fantasme veut me dire telle et telle chose. Et qu'en réalité, c'est le message est le suivant. Et je le dis d'une façon verbalisée, claire.
Hein? Traduit.
Traduit. Voilà. Donc ça, on est au sommet de la mise en pensée. Qui économise l'acte, la symptomatisation, etc. Ça, ça veut dire que la mise en pensée, c'est quelque chose qui est un processus qui met du temps à véritablement être acquis. En plus, il ne faut pas confondre pensée et mental. C'est-à-dire que la pensée, c'est quelque chose qui est relié au fantasme, aux pulsions via le corps, et qui du coup fait la mise en sens de tout l'ensemble de son propre jeu, alors que le mental, c'est de l'apparente pensée, mais qui est coupé du fantasme, des pulsions, des sensations, et qui peut tourner dans tous les sens. Donc le mental, c'est un cheval qui est décollé de son attelage, et qui court n'importe où, au galop, dans tous les sens, alors que la pensée vraie, c'est une pensée qui s'appuie sur les capteurs internes concernant les images, les sensations, les affects qui existent en nous. Ok ? Donc, vous voyez que, par exemple, un bon thérapeute, par définition, c'est quelqu'un qui est capable de penser. Et qu'un thérapeute mauvais, ou qui a en tout cas sérieusement besoin de travailler, c'est un thérapeute qui va faire des tas d'hypothèses à partir du mental, en se basant sur rien, à part ses lectures, ou ce qui vient d'être dit dans la dernière conférence qu'il a entendue. Bon, alors, tout ça pour dire que le rêve éveillé, avec sa procédure particulière, où on va faire du rêve éveillé et où on va ensuite faire des liens sur ce rêve éveillé, est conforme finalement au développement non seulement de la symbolisation, parce que déjà pour certaines personnes c'est très important d'apprendre à faire du rêve éveillé, c'est-à-dire de commencer à mettre en symbole ce qui d'habitude est mis en acte ou en symptôme, et en plus non seulement après d'avoir symbolisé mais d'avoir mis en pensée, hein. Ceci dit, nous on a une étape intermédiaire avant la mise en pensée qui est extrêmement intéressante, qui est l'interprétation métaphorique, c'est-à-dire où on va jouer ensemble, à délirer ensemble sur le sens de telle chose, sur le sens de telle chose, mais non pas en disant voilà quel est le sens, mais en disant ce chien qui est là, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, et ainsi de suite. Donc on a un certain nombre d'idées sur ce qui est en train de se dire, mais on n'est pas obligé d'en parler d'une façon verbale trop élaborée, alors qu'il faut d'abord consteller le préconscient, c'est-à-dire qu'il y ait tout un tas de messages presque conscients, mais pas encore, qui vont s'inscrire progressivement dans le psychisme du patient par le fait même qu'on fasse un travail métaphorique, et ce qui va préparer la mise en pensée définitive. Okay ? Donc vous voyez que on a là quelque chose qui est vraiment un outil capital. Maintenant, il y a quand même une énigme, qui est celle de comment on peut sortir de la répétition. Parce que normalement, les rêves nocturnes, par exemple, il répète l'histoire, il répète le traumatisme, il répète ce qui s'est vécu, ils indiquent de plus en plus, ou sous des formes différentes, voilà quel est le traumatisme, voilà quelle est la vision du monde, voilà quelles sont les croyances qui ont été induites en toi par ton histoire. Le rêve éveillé aussi, d'ailleurs, il indique le traumatisme, le vécu, les croyances. Mais on peut se demander pourquoi il y aurait du renouveau. D'où il peut bien venir ce renouveau, parce qu'après tout, on pourrait répéter, comme dans la névrose traumatique, où les choses se répètent à l'éternel. Alors, on va réfléchir un peu sur cette question. D'abord, il est nécessaire de répéter, mais pas de répéter n'importe quand, il est nécessaire de revivre, pour terminer autrement. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de gens qui font des analyses et dont on a l'impression qu'ils ont tout compris mais qu'ils n'ont rien changé. Donc vous avez ce qu'on appelle un peu le caractère psychanalytique, qui est un échec de la psychanalyse, où la personne elle est capable de jongler avec des interprétations de toutes les sortes et de toutes les couleurs, mais où finalement, dans sa vie réelle, dans ses symptômes, dans son comportement, dans sa manière d'être, il n'y a rien de changé. Bien ça, c'est quand il y a eu une erreur du positionnement qui fait qu'on a cru que ce qu'il s'agissait de faire, c'était de comprendre. Revivre la zone paradoxale. Alors, revivre la zone des conflits, bon, ça c'est assez classique, c'est le transfert classique, c'est-à-dire le thérapeute est le père détesté, ou la mère étouffante, ou la mère idéalisée tellement bonne, etc. Bon, ça c'est classique, hein, c'est ce que vous connaissez. Et on trouve aussi ça dans le rêve éveillé. Mais il faut aussi revivre la zone paradoxale. Et ça ne se joue pas de la même manière au niveau transférentiel. Parce que là, le thérapeute, il a surtout un rôle de contenant. De contenant ou de mère détoxicante. C'est-à-dire, ça, on rejoint Balin, Tobion, Winnicott. À ce niveau-là, on est beaucoup moins dans la zone des conflits. Et si on interprète en termes de zone de conflit quelque chose qui est de la zone paradoxale, on se trompe. Dans cette zone-là, on n'a surtout pas à interpréter, surtout pas à être trop actif. On doit être cette espèce de fond contenant qui va permettre que le patient est seul avec ses vécus archaïques très perturbants, mais qu'il est seul en présence. Et puis aussi, on va faire tout un travail de psychisation interne qui va servir aux patients. Voilà, donc, première nécessité, revivre. Si on n'a pas revécu, c'est du pipeau. Mais comment on peut revivre alors que c'est quelque chose qui s'est vécu quand on avait un mois, deux mois, trois mois, un an, six ans? Par définition, revivre suppose la régression. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je retourne sur les lieux du crime, sinon je ne peux pas les transformer. Et comment retourner là-bas? Ben, faut accepter de régresser. Or, comme on est dans la vie courante en tant que patient et qu'on doit bien faire face, comment on va faire pour à la fois régresser et à la fois progresser? Eh bien, c'est là où il faut qu'il y ait un cadre à l'intérieur duquel on se permet de régresser. Et à ce moment-là, s'il est suffisamment clair et contenant, on peut se permettre de régresser suffisamment tout en progressant par ailleurs. Et la régression, donc, est favorisée par le cadre, et plus particulièrement par le cadre et par certaines règles du jeu. Les règles du jeu font partie du cadre, d'ailleurs. Donc, le divan, bien entendu, favorise la régression, puisqu'on ne voit plus l'autre et qu'on est dans une position qui n'est pas la position debout, hein. Voici. Et le divan est assorti du suspens d'une communication trop secondaire, trop processus secondaire, trop pensée, trop une communication comme on l'a d'habitude, puisqu'il est une des règles qu'on donne, c'est vous laisser venir ce qui vient comme ça vient. Donc on favorise le fait qu'il y ait des processus primaires, que la communication soit plus primaire. Donc par définition, qu'elle soit déjà moins bouclée par une pensée logique. Le positionnement du correct du thérapeute, comme je vous l'ai dit déjà, et on reviendra dessus, qui, à cette phase-là, et pendant tout le restant de la cure, va ne plus s'intéresser à l'actuel, à l'interactionnel, au quotidien, à tout ce dans quoi se débat le patient et qu'il trouve tellement important, et au contraire, va s'intéresser intérieurement à l'ancien, à l'archaïque, au traumatique, à tout ce qui est intrapsychique. Donc si on propose le divan, si on propose la règle du jeu, si on est positionné correctement à chercher en profondeur, on favorise la régression. On favorise encore plus la régression avec le rêve éveillé, puisqu'on propose une pensée qui est imagée et qui est non censurée, dans laquelle le patient va se permettre de se laisser aller, se laisser porter, avec des affects qui vont être forts. Une autre chose qui favorise la régression, une des autres conditions de la régression, c'est la passivité réceptive du thérapeute. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le thérapeute, à cette étape-là, il est très important qu'il évite de prendre la cure en main, quoi, d'être l'actif. Il faut qu'il soit capable d'être au service, d'être humble par rapport au rêve éveillé et par rapport au mouvement de l'inconscient du patient. Donc il faut qu'il puisse se laisser mener sans forcément savoir où ça va mener. Donc il y a quelque chose qui est assez passif, réceptif, hein, et qui n'est pas facile pour certains thérapeutes qui veulent à tout prix comprendre, diriger, donner des bonnes idées, etc. Alors que là, finalement, ils vont plus vite que la musique. C'est une des raisons pour lesquelles on ne donne pas de thème en rêve éveillé, par exemple. Parce que du coup, ce serait vouloir déjà aller explorer telle et telle chose, alors que là, on va accepter d'être réceptif. Où est-ce que ça va nous emmener cette fois-ci ?
Quand c'est le patient qui demande...
Alors, on y reviendra, ça c'est des détails. Le patient au début, il demande parce qu'il a besoin d'être sécurisé, et on lui donne un thème vague, comme ça il a son petit os à ronger, puis ensuite, en fait, il va où il veut, quoi. Alors, il y a un point quand même, il y a un seul point sur lequel le thérapeute doit être actif, dans la cure, parce qu'à l'intérieur de lui, il est très actif, bien entendu, c'est l'abrasement des mécanismes de défense qui empêche la régression et qui empêche la formalisation imagée. Puisque on a un outil qui va permettre la mise en image de l'impensable impensé, et il ne peut être valable et intéressant que si on favorise la régression. Donc on va absolument empêcher, freiner, analyser, interpréter, travailler sur les mécanismes de défense qui empêchent ces deux choses. Et là, on a besoin d'être extrêmement clair sur le fait que ça, il faut absolument que ça soit diminué, hein, ou même disparu. Donc vous voyez que on a l'énigme du travail sur l'impensable, l'impensé, et sur la formalisation de cette zone. Eh bien nous, on a le support du rêve éveillé. Mais on peut lire dans un certain nombre d'écrits psychanalytiques différentes approches qui toutes essayent de réussir à donner une forme perceptible à ces vécus archaïques. Mais ils y arrivent plus difficilement que nous, d'une certaine manière. Par exemple, il y a un type qui s'appelle Sarkissov qui a essayé de faire un nouveau concept qui s'appelait la psychanalyse active. En fait, ça n'a pas tellement marché parce que c'est tellement compliqué qu'il n'y a que lui qui arrive à le faire quasiment. Dans lequel l'idée c'est, puisque l'archaïque se trouve aussi dans le corps, on va faire un travail avec le corps à l'intérieur de la psychanalyse. Donc le psychanalyste va être dans une relation tout à fait différente de celle qui est la nôtre, où il va y avoir un emploi du corps, où il va y avoir des contacts physiques, où il va y avoir quelque chose un peu qui a une espèce de lien possible avec le rebirth ou avec la gestalt, quelque chose comme ça. Et parallèlement à cet emploi du corps, un positionnement du thérapeute qui est de se laisser complètement mener par ce qu'il appelle la conscience non mentale. Bon, c'est pas inenvisageable, lui-même le fait, mais c'est tellement difficile puisqu'il y a tout un tas de dérives possibles à partir du moment où il y a une prise en charge du corps, du patient, des contacts physiques. C'est tellement source de dérives et même éventuellement de mystification, c'est-à-dire de création d'une interprétation par le thérapeute, que du coup on voit tout de suite à quel point c'est infiniment plus compliqué et plus délicat et plus source de possibles dérives que quand il y a le rêve éveillé qui lui se débrouille pour mettre tout ça en forme. Bon, par exemple, ça, c'était une des tentatives pour essayer de trouver comment en psychanalyse on peut faire venir l'archaïque, là, en l'occurrence, en mettant le corps. Une autre tentative que j'ai lue récemment, il y a des psychanalystes qui s'appellent Botella, César et Sarah Botella. Il y a un livre qui est paru en 2007, donc c'est tout récent, sur la figurabilité. Comment figurer ces vécus impensables? Et alors ils en arrivent à une conclusion qui est très intéressante, ils sont presque au rêve éveillé, mais pas encore tout à fait. Ils en arrivent à une conclusion comme quoi, dans ces moments-là, l'analyste doit se laisser aller intérieurement à une sorte d'hallucination, à une sorte de rêverie hallucinatoire qui va lui permettre d'entrer en contact avec l'archaïque du patient. Donc vous voyez qu'il cherche presque du même côté que nous, sauf que pour le moment c'est l'analyste qui en est là. Mais nous on a encore bien plus simple, c'est le patient lui-même qui va faire ça. Hein. Et puis bon ben Balint, Winnicott, avec les variations du cadre dont parlait tout à l'heure Annick, ils sont presque obligés de faire des variations du cadre, puisqu'on est dans des zones tellement primaires. Hein. Mais du coup, avec toute la délicatesse que ça représente, c'est-à-dire que dès qu'on a commencé à faire des variations du cadre comme ça, à garder la patiente 2 heures en lui tenant la main, on risque ensuite d'avoir énormément de difficultés à traiter des zones plus oedipiennes, par exemple. Donc alors, tout ça pour vous toucher du doigt, la richesse de ce qu'est l'IRE et comment c'est une réponse à ce que la plupart des psychanalystes essayent péniblement de trouver. Alors ensuite, on tombe sur une autre question qui est comment c'est possible qu'il y ait du renouveau, qu'il y ait de la restauration, qu'il y ait de la terminaison des choses ? Parce qu'au fond, c'est une énigme. Pourquoi il y aurait du renouveau ? Pourquoi il y en a ? Alors, d'abord, comment se manifeste le renouveau ? Le renouveau, il se manifeste par différentes choses qu'on vit en particulier en rêve éveillé, comme l'expérience vécue de ce qui n'avait pas pu être expérimenté correctement en son temps. Donc, on vit quelque chose qu'on n'avait pas pu vivre à l'époque. Ça, on le trouve aussi en psychanalyse classique, à travers le transfert. Et là, c'est un renouveau important, puisque c'est un peu comme si, par exemple, on avait la possibilité de faire une expérience différente avec cet imago parental, en tant qu'imago parental, parce que du fait du transfert, on l'a projeté sur le thérapeute, sur l'analyste, et que du coup, cette expérience différente va être comme une façon de vivre vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vécu correctement en son temps. Mais même chose, nous, on a le transfert d'un côté, mais surtout largement autant, le rêve éveillé pour le vivre, ça. Vous avez tous connu des rêves éveillés restaurateurs, dans lesquels on vit enfin quelque chose de différent. Hein. L'assouplissement des mécanismes de défense ou leur changement, ça aussi, c'est une des manifestations du renouveau. Et une autre manifestation du renouveau, c'est la recherche de nouvelles voies pour le plaisir, pour affirmer sa propre capacité d'être, pour exister, quoi, hein, on trouve de nouvelles voies. Donc tout ça se met en place grâce aux rêves éveillés et à leur évolution, en particulier les rêves éveillés mutatifs et restaurateurs. Alors j'en profite en annexe, et on va revenir sur l'histoire du renouveau, pour vous souligner qu'il y a 4 formes de rêves éveillés, avec des formes qui ont plus ou moins de renouveau à l'intérieur d'elles. Alors, la forme classique, c'est celle que vous connaissez dans 90% des cas des rêves éveillés. C'est-à-dire, ça se déroule dans un espace inhabituel, on est sur la planète Mars, on est avec telle et telle figure, un énorme géant, avec des choses comme ça. Donc, cette forme classique est marquée par un symbolisme assez élaboré. Donc il y a un scénario, on va aller combattre le serpent énorme qui est logé dans une caverne, etc. Bon, ça c'est la plupart des rêves éveillés classiques. Dans ces rêves éveillés classiques, il y a de la répétition et du renouveau. Il y a des moments où on revit quelque chose, finalement, sans le savoir, on est en train de remettre en scène ce dont on est porteur. Puis il y a des moments où le même rêve éveillé ou un truc un peu similaire qu'on va retrouver de rêve éveillé en rêve éveillé, on commence à le traiter autrement et à le prendre autrement. Donc il y a du renouveau et de la répétition dedans. Mais il y a d'autres types de rêve éveillé, beaucoup plus minoritaires et qui sont à respecter autant, parce qu'ils sont très, très importants, il y a le rêve éveillé archaïque. Là, vous avez les livres de Nicole Fabre qui en parlent bien. qui présentent un aspect particulier de ces vécus, c'est-à-dire c'est des rêves éveillés, mal structurés, mal formalisés, avec des ressentis de toutes sortes. La personne, elle est dans un truc, un rond rose, qui, elle plonge dans une espèce de magma bizarre, il n'y a pas vraiment d'histoire, elle est en train de vivre un truc, mais par contre elle a des ressentis forts, il y a des formes pointues, des trucs, bon. Ça, c'est assez différent du rêve éveillé classique, en ce sens qu'il n'y a pas vraiment de scénario, pas vraiment de formalisation claire, etc. Et bien, c'est très intéressant parce que c'est proche du vécu le plus archaïque. Il y a certains exemples que je pourrais vous donner à un autre moment, parce que si jamais, ça donnerait un peu trop l'idée de qui faisait ce genre de rêve éveillé, mais certains exemples de personnes qui ont vécu des rêves éveillés archaïques qui ressemblaient exactement à ce qui avait pu se vivre in utero, quoi. C'est-à-dire un peu comme si, au fond, ces rêves éveillés très primaires nous permettaient de retrouver des vécus où alors vraiment la pensée n'est même pas encore capable de mettre en image une formalisation. Là, il faut le savoir pour vous en tant que thérapeute, parce que comme on vous dit toujours, essayez de proposer à la personne de vivre un scénario, de faire telle et telle chose, etc. Dans ces cas-là, si vous commencez à dire, et si vous transposiez, ou qu'est-ce qui se passe autour de vous, etc., que vous essayez de ramener sur la forme classique, c'est inadéquat. Mm-hmm. Heureusement, la plupart du temps, ça glisse comme sur le dos d'un canard du patient qui continue son rêve éveillé pour peu que vous ne soyez pas trop intrusif. Donc, il y a des rêves éveillés qui n'ont pas du tout la forme classique et qui sont très importants puisque c'est des rêves éveillés archaïques. Alors là, c'est les plus archaïques des archaïques, d'une certaine manière. Et eux, c'est la répétition du plus archaïque avec aussi la possibilité du renouveau, en sens que ça peut terminer, par exemple, où finalement ça prend une forme. Je suis dans un tunnel, puis je suis de plus en plus serré, puis je vais émerger, puis après ça devient autre chose. Un peu comme si j'avais pu vivre un truc un peu archaïque et puis que ça commence à se formaliser autrement. Donc rêve éveillé classique, au symbolisme assez élaboré, rêve éveillé archaïque. Et puis il y a deux autres types de rêve éveillé qui sont assez inhabituels et que je tiens à vous signaler pour éviter que vous ameniez vos gros sabots là-dedans quand ils sont en train d'être vécus. Un rêve éveillé qui s'appelle le rêve éveillé cathartique, c'est-à-dire la catharsis, c'est quand on purge quelque chose et qu'on se termine de quelque chose. Or, la plupart du temps, ce qu'on vous indique en tant que thérapeute, c'est de dire, quand la personne voit quelqu'un de sa famille dans un lieu de sa famille, d'une façon, ou c'est chez elle, quoi, d'une certaine manière, vous décalez. Ok ? Et c'est ce qu'il faut faire. Mais il arrive quelquefois que, en particulier quand il y a eu un abus sexuel ou quelque chose de fort, que la personne ait besoin de revivre la chose, de se retrouver dans la chambre où ça a eu lieu, ou dans la cuisine où ça a eu lieu, face à l'agresseur avec qui ça s'est passé, et qu'elle déchaîne à ce moment-là sa rage, sa violence destructrice, la punition sévère. En même temps, ultra sévère la plupart du temps, c'est découper en morceaux, le châtrer, le balancer au chien, le mettre dans la poubelle, jeter la poubelle dans la merde, enfin bref, il y a des trucs très violents, qui sont des rêves éveillés très intéressants, très libérateurs. C'est un peu comme si la personne se permettait enfin, avait la possibilité, grâce au rêve éveillé, de revenir sur la scène traumatique et de la terminer autrement. C'est la scène réelle assez proche, quoi. C'est la personne en question, c'est souvent le lieu en question, même si c'est pas exactement le même, mais ça ressemble, quoi. Hein. Et on voit qu'à cette époque, parce que la plupart du temps ça renvoie à des zones infantiles, on voit bien qu'à cette époque, ce qui s'applique, la justice, c'est la loi du talion. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est même pire, hein. Et que d'une certaine manière, le surmoi oedipien, plus élaboré, avec des choses plus adoucies, n'a pas sa place là. Que ce que doit vivre la personne, c'est la loi du talion, et c'est véritablement se libérer par la violence, la haine, la rage, le sang, la pulsion destructrice de ce qu'elle a subi. Quelquefois d'ailleurs, après, il y a le surmoi plus oedipien qui dit « quand même, qu'est-ce que je fais avec ces rêves comme ça, je devrais pas, etc. » Alors qu'en fait, c'est ce qu'elle doit vivre, la personne. Donc à ce moment-là, pour vous, c'est important de laisser se dérouler, de l'accompagner, et même de favoriser, parce que quelquefois la personne, elle s'arrête. Elle n'ose pas aller jusqu'à le châtrer à coups de rasoir et jeter ça je ne sais où, dans les égouts du coin, ou lui mettre dans la bouche. Elle n'ose pas. Et d'une certaine manière, vous avez besoin de l'aider à aller, d'oser vivre, quoi. Et pas en lui disant de le faire, parce que là, ce serait un acting contre-transférentiel. Plutôt en disant, oui, qu'est-ce que vous, laissez, de quoi avez-vous envie, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, etc. Parce que sinon, elle sera obligée de s'y reprendre plusieurs fois. Quoique des fois, souvent, un rêve éveillé de cet ordre, il est très libérateur. D'ailleurs, souvent, il y a des effets immédiats dans la vie réelle de la personne. Mais quelquefois, il est obligé de se faire en plusieurs morceaux. On s'approche jusque-là, ensuite un peu plus, ensuite un peu plus. Donc vous voyez que le classique, c'est celui qu'on vous apprend, mais qu'il faut que vous soyez suffisamment souple pour pouvoir accueillir l'archaïque, le cathartique et le mystique. Le mystique, c'est le rêve éveillé dans lequel la personne a des vécus de grande élévation, de sentiments d'amour universel, d'être relié à tout ce qui vit, d'être véritablement dans une ambiance de fusion bonne. D'une certaine manière, c'est retrouver le lien avec une bonne imago maternelle primaire. Donc en ce sens-là, c'est la restauration de quelque chose de base. Évidemment, ça a l'air d'être du religieux, du mystique, et d'ailleurs le vécu des mystiques est proche de ça. C'est pour ça qu'on les appelle les réveillés mystiques. Alors, même chose, c'est des rêves éveillés de restauration. Tout le monde n'en fait pas, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de restaurer une fusion maternelle primaire avec une bonne image de base. Mais quand certaines personnes le font, c'est important à respecter. La différence, la difficulté, c'est de faire le tri entre la fuite par le haut, comme on le voit assez souvent dans un certain nombre de rêves, où la personne elle est en train de vivre un truc un peu plus, qui peut faire peur ou qui est un peu trop pulsionnel, et où elle s'envole, et de là-haut, elle voit tout ça avec bienveillance, etc. Ça, c'est la fuite par le haut. Et les réveillés mystiques, on sent bien que ce n'est pas de la fuite, c'est que c'est une expérience d'un vécu vraiment bon et fusionnel, et qui d'ailleurs, lui aussi, a des effets immédiats sur la personne après. Voilà, alors comme vous le voyez par exemple, le cathartique et le mystique, c'est des rêves éveillés de renouveau. Là, il n'y a que du renouveau. Alors que le classique et l'archaïque mélangent de la répétition et du renouveau. Donc pour en revenir à cette question du renouveau, qu'est-ce qui fait qu'il y a du renouveau? Pourquoi il y a du renouveau plutôt que de la répétition? C'est pas forcément simple comme réponse. Est-ce qu'il faut en appeler un principe? Donc par exemple, le soi, jungien, comme une espèce de force transgénérationnelle et en même temps transpersonnelle. Est-ce qu'on peut appeler ça le schéma constructeur interne? Est-ce qu'on peut appeler ça la force de vie qui serait presque phylogénétique? Après tout, quand on plante une graine, il y a quand même une force qui la pousse à devenir une fleur. Est-ce qu'il y a une force de vie? Est-ce qu'il y a une pulsion d'Eros, comme dirait Freud, quoi, Eros et Thanatos? Est-ce qu'on peut appeler ça de la résilience? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça? Donc, un certain nombre de théorisations disent, il y a un principe. Il y a un principe qui pousse, qui fait qu'on pousse à se réaliser. Toute l'approche humaniste dit, on pousse à se réaliser. Bon, c'est pas inenvisageable, et c'est même assez probable, ceci dit, on peut se demander s'il n'y a pas d'autre chose qui serait par exemple simplement l'effet de la situation, avec en particulier le fait qu'on est dans une nouvelle situation où le psychisme s'appuie sur le psychisme du thérapeute. Parce que ce que vous avez constaté par exemple, et c'est tellement frappant qu'on ne peut pas éviter de le voir, c'est comment, après une supervision où vous avez travaillé sur un patient, la séance suivante, quand vous ouvrez la porte et que le patient commence à parler sans que vous ayez dit plus que bonjour, bonsoir, tout ce que vous aviez travaillé a changé. C'est-à-dire que le patient n'est plus le même après votre supervision. Ça, vous n'en avez pas encore tout à fait l'expérience, mais vous verrez à quel point c'est spectaculaire. Un exemple tout récent, par exemple. J'ai une titulaire qui m'écrit en disant « Bon, avec cette patiente-là, il y a du transfert négatif, elle m'en envoie plein la figure, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, etc. » Et je lui réponds par mail « Ben, t'as rien à faire, juste à survivre. » Et puis c'est tout. Ne dis rien, n'interprète pas, parce qu'elle voulait lui interpréter je ne sais pas quoi. Dis-toi que c'est ce que tu as de mieux à faire, et puis point barre. Séance suivante, la patiente arrive, charmante, agréable, douce, disant des tas de trucs positifs, etc. Donc la seule chose qui a changé, c'est le thérapeute. Et là, des exemples comme ça, on en a des dizaines. Donc ça, c'est une vraie énigme. Qu'est-ce qui fait que le thérapeute fait un changement à l'intérieur de lui et le patient, la fois suivante, se comporte autrement sans même qu'on ait dit un mot? Eh bien, je pense que ça débouche sur l'idée qu'il y a un vrai travail en commun et qu'il y a une sorte de mélange des psychismes. Et ça, c'est une théorie qui est assez peu élaborée et qui trouve pas mal de résistance chez pas mal de psychanalystes. L'idée qu'il y a ce mélange de psychisme. Alors oui, il y en a plusieurs qui se rapprochent de ça. Mais donc si vous voulez, si on part de cette idée, dans le contexte en question, il y a deux choses qui peuvent faire changer les choses. Il y a d'une part les deux moteurs du patient, hein, moteur arrière, moteur avant, il faut qu'ils soient là, sinon ça ne bougera pas. Mais il y a d'autre part, le travail intérieur du matériau du patient fait par le thérapeute, le désir de restauration qui est manifesté par le cadre, on n'a pas besoin de dire autre chose, le simple fait qu'on reçoive la personne toutes les semaines, implicitement, ça transmet un désir de restauration, un désir d'aménagement, un désir d'amélioration. Et la transmission inconsciente, qui est une hypothèse qui me paraît de plus en plus probable. En effet, les deux moteurs du patient, eux, s'ils étaient dans un autre contexte, parce que en avoir marre de souffrir, vouloir aller mieux, ça peut donner des changements de niveau 1, par exemple. Ça peut donner que la personne va essayer un truc, ensuite elle va essayer autre chose. Donc le moteur en lui-même ne donne rien. Il peut très bien donner des changements apparents, qui sont des tentatives dans tous les sens, qui ne changent rien. Or, si ça change, c'est parce que ces deux moteurs sont à l'intérieur d'un contexte qui lui-même contient deux personnes, dont une qui se laisse travailler intérieurement parce qu'il vient du patient et qui travaille aussi à l'intérieur de soi pour l'accepter. Donc, au fond, on débouche sur l'hypothèse que un des points fondamentaux du désir de restauration et du renouveau qui arrive, ça pourrait être aussi simplement le mélange des deux psychismes. Et que du coup, ça nous laisserait, ça mettrait de côté deux idées fausses. L'une qu'on entend souvent qui est « c'est le patient qui se soigne » et l'autre qui est « c'est le thérapeute qui soigne ». Les TCC, c'est le thérapeute qui soigne. En réalité, c'est là aussi, on a un paradoxe. C'est ni l'un ni l'autre et c'est les deux en même temps. Le patient peut se soigner lui-même parce que il est avec ce thérapeute qui lui-même se soigne et soigne le patient. Et donc, en réalité, c'est indécidable, quoi. Et c'est vraiment les deux qui créent un espace particulier dans lequel les choses vont aboutir à un travail différent. Et ça nous explique deux choses, ce qui serait incompréhensible sinon, que le rêve éveillé est différent suivant le thérapeute ou suivant le contexte, et les changements qui surviennent spectaculairement chez le patient lorsque le thérapeute lui-même change son point de vue. Sinon, comment expliquer ces deux aspects-là? Ce serait impossible. Et alors du coup, ça nous fait déboucher sur la conclusion qu'un des éléments essentiels de la cure, c'est le travail intérieur du thérapeute à IRE. Donc si vous voulez, on retombe à nouveau sur les deux pôles indispensables de la cure à IRE, qui sont le rêve éveillé, avec sa pensée paradoxale, si proche de la pensée archaïque et de tout ce qui doit être mis en pensée, et le travail intérieur du thérapeute, mais je dis bien intérieur, et pas forcément extérieur. Et donc, au fond, pour conclure, on pourrait dire que le travail à IRE, avec ses spécificités, donc le rêve éveillé, le transfert réparti sur deux scènes, l'interprétation métaphorique, et le fait qu'on vous demande essentiellement un travail intérieur, plus que extérieur, donc le rêve éveillé avec ces spécificités-là, à mon avis, est une réponse, enfin le travail à IRE, pas le rêve éveillé, le travail à IRE, à mon avis, représente une réponse particulièrement élégante à la question difficilement résolue par la psychanalyse classique du traitement de la zone archaïque et de ses impensés impensables.